Première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre... Ah, on va prier pour une dame qui s'appelle Bénédicte. Elle a 30 ans, c'est une dame qui est en train de découvrir l'évangile. Elle passe par des moments extrêmement difficiles. Et la famille m'a téléphoné hier soir, ils sont de... Je ne sais plus d'où ils habitent, du côté de Marseille. Ils m'ont demandé que l'on prie vraiment pour eux. Voilà, et on va également prier pour la maman de Madame Maury, qui a 93 ans, qui est encore retombée, et quand même qui a des grosses difficultés. Notre Père, nous sommes heureux d'avoir la santé pour nous retrouver dans ta maison. Nous sommes conscients que c'est un grand, grand privilège que d'avoir la santé pour nous retrouver dans ta maison. Alors nous qui avons la santé, eh bien nous voulons penser à ceux qui ne l'ont pas. Et nous te prions, Seigneur, pour Bénédicte, cette femme qui a tant besoin de ta grâce dans son corps. Seigneur, tu as le pouvoir en ce moment même, dans cette salle d'hôpital, dans cette clinique, tu as le pouvoir de la guérir. Maintenant, parce que par tes meurtrissures, nous sommes sauvés et guéris. Seigneur, bénis également cette maman, la maman de Madame Maury. Tu vois son âge avancé, nous soupçonnons que tu peux la reprendre, Seigneur, vu son grand âge. Mais ce que nous te demandons, c'est que ta grâce et ta paix soient sur cette famille entière. Et que nous réalisions une fois de plus que ta paix n'est pas un concept intellectuel, mais véritablement une grâce que tu nous accordes chaque jour. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Que le Seigneur soit béni. Jean chapitre 13, verset 2. On va verset 1er. Jean chapitre 13, verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Alors, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je relis ce dernier verset. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Dans la première épître de Pierre, nous trouvons un texte que nous avons chanté tout à l'heure, que nous avons rechanté deux fois, 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12, il y a cet enseignement qui est également enseigné dans la loi, donc ça n'a rien à voir avec une dispensation ou une autre, ça a à voir avec toutes les dispensations de tout temps, Dieu veut ceci. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, et voir des jours heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, alors qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. On va le lire quand même dans le psaume 32, qu'on a chanté tout à l'heure. Et c'est la dernière strophe que nous a faite rechanter Jérémie qui exprime ce texte. Psaume 34. D'ailleurs, ce chant qu'on a chanté, en tout temps je le bénirai, c'est le psaume 34. Regardez, c'est exactement la même chose. Donc, je le répète, ça n'a rien à voir avec la dispensation de la grâce. C'était pareil pendant la dispensation de la loi, donc c'est valable pour tout le temps. Psaume 34, verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Donc nous voyons de tout temps que Dieu veut que les hommes soient heureux. Nous avons vu cette semaine passée, autant le dimanche que le mardi, qu'il y a des temps difficiles. Il y a des temps où nous sommes éprouvés. Dimanche dernier, nous avons vu que Dieu peut permettre de conserver en nous certaines échardes, certaines épreuves pour nous empêcher de tomber, de nous enorgueillir, etc. Pour l'apôtre Paul, c'était qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ça valait vraiment la peine que cet homme ne tombe pas dans l'orgueil. Eh bien, c'est valable pour nous aussi. C'est valable pour nous que nous ne devenions pas, paresseux. Donc Dieu peut permettre des échardes, des combats, des luttes. Il y a des moments difficiles, oui ou non ? Est-ce que vous avez traversé des jours mauvais ? Bon, on a des jours mauvais, mais Dieu veut que l'on soit heureux. Est-ce que vous entendez ? Ce n'est pas parce que les ténèbres s'épaississent, ce n'est pas parce que les choses vont de mal en pis que nous devons tomber dans le catastrophisme et la tristesse. Je crois qu'au contraire, nous nous réjouissons de ce que Jésus va bientôt revenir nous chercher. Dieu veut que l'on soit heureux. Vous entendez, mes frères et sœurs ? C'est une question que les gens se posent souvent. Qu'est-ce que le bonheur ? On est dans le livre des psaumes, regardez au psaume 4, David se fait le porte-parole de plusieurs, ils ont dû en parler. Peut-être un soir, ils se sont retrouvés avec des amis, ils ont pendu la crémaillère avec des amis, et ils se sont retrouvés à une cinquantaine, une soixantaine, et voilà la question qui est sortie dans le cœur de David. Verset 6, verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur. Il se fait le porte-parole de tout un groupe. Ils ont dû en discuter, c'est évident. Mais qui nous fera voir le bonheur ? C'est une question. Vous avez lu avec moi que Jésus dit que ceux qui l'imitent seront heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Alors il faut se rendre à l'évidence quand même. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tristes. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils ne servent pas Dieu. Et pourtant, ils ne sont pas en adéquation avec cette parole de l'Écriture. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces chrétiens sont malheureux ? Alors, c'est vrai qu'on les a des fois trompés au départ. Des fois, les évangélistes trompent les gens en leur disant, « Venez à Jésus et vous serez heureux. » On a plein de cantiques qui le chantent. Mais ce n'est pas parce qu'on vient à Jésus qu'on est heureux. Parce que quand on vient à Jésus, on est sauvé. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux. Est-ce que j'invente quelque chose ? Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas heureux. Alors, c'est une transformation de la prédication de la croix. C'est vrai qu'il y a de la joie. Est-ce qu'on pourrait chanter tout à l'heure « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé » ? J'espère que vous êtes nombreux à pouvoir chanter la joie qu'il y a d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux. Et il y en a un qui fera tout pour que vous restiez malheureux. Et Dieu, lui, il va vous parler pour que vous puissiez transformer cet état de cœur et devenir véritablement un chrétien heureux. Car oui, il y a des combats. Oui, il y a des épreuves, et il y en aura. Et des jours mauvais, et des moments difficiles. Oui, dans les derniers jours, les temps seront difficile. Et nous sommes en plein dedans. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Alors ce que l'on va voir ce matin, en quatre points, c'est qu'est-ce que c'est qui provoque vraiment le bonheur. Puisque David, qui ne manquait de rien. David était un roi qui avait des choses extraordinaires, des choses que nous n'aurons jamais, c'est pas important, mais en fait, il les avait. Et pourtant, lui aussi pose la question, mais qui nous fera voir le bonheur ? Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne servent pas le Seigneur. Ils sont chrétiens de nom, ils adorent Dieu du bout des lèvres, comme dit Esaïe, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Vous connaissez tous ces textes. il y a une certitude, si on fait quelque chose pour Dieu, de tout son cœur, quelque chose que Dieu nous demande, on est heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Peut-être que vous êtes un chrétien très heureux. Et j'espère qu'il y en a beaucoup dans l'assemblée des chrétiens qui sont heureux. Heureux parce qu'ils sont sauvés et heureux parce qu'ils font ce que Dieu leur demande. Peut-être que vous faites partie de ces chrétiens qui sont tombés dans la négligence, dans la paresse, qui sont tombés dans la désobéissance, etc., dans la routine, et vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous étiez redevenu triste. Jeudi, on parlait de l'église de Sardes, une église qui s'est fait piéger. Elle n'est pas tombée dans des péchés graves, elle est tombée dans la négligence. Dieu a dit à cette église, tu crois que tu es vivante et tu ne sais pas que tu es morte. Sois vigilant. Elle ne veillait pas. Si tu ne veilles pas... Vous voyez, elle n'est pas tombée dans un truc grave. Elle a cessé de veiller. Sois vigilant. C'était le conseil que Dieu donnait à cette église de réapprendre à veiller. Il n'en a pas suffi de beaucoup pour que cette église redevienne morte. Et si vous ne veillez pas sur vous-même, si vous ne veillez pas sur votre âme, si vous n'êtes pas sérieux avec votre piété, eh bien Dieu pourra vous dire un jour, eh bien tu crois que tu es vivant parce que tu vas à l'église tous les dimanches, mais en vérité tu es mort. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est vivant. On est vivant lorsque la vie de l'Esprit de Dieu nous renouvelle continuellement par ces moments où nous nous tenons devant sa face. Voilà, vous voyez, il n'en fallait pas beaucoup. Donc elle avait besoin, cette église, elle avait besoin d'un conseil. Oui, Jésus veut que vous soyez heureux. Alors le bonheur, c'est quoi? Tiens, on pourrait faire un questionnaire, puisque Jérémie a commencé à faire chanter en posant des questions. Hein, moi aussi, je vais vous en poser. Hein, alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est acheter la dernière BMW? Parce que moi j'ai vu, la joie, c'était d'acheter une BMW. Est-ce que c'est bien d'acheter une voiture? Parce qu'attention, attention, je veux des gens honnêtes. Attention, attention, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau matériel? C'est bien. Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau sentimental? Est-ce que Dieu vous a comblé au niveau sentimental? Oui, Sophie. Bon, il est derrière, fais gaffe. Est-ce que c'est bien d'être comblé au niveau professionnel? On ne peut pas négliger ces choses. Est-ce que c'est bien d'avoir la santé? Sérieusement, on ne peut pas être malhonnête. C'est une grande bénédiction que d'être comblé au niveau matériel, d'être comblé au niveau affectif, d'être comblé au niveau professionnel, etc., etc. Et ça serait malhonnête de dire non, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est sûr, quand on en a. Mais bien sûr, nous allons voir. Parce qu'il ne faut pas négliger. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Et ne soyons pas trop spirituels. Vous savez les TTS? Vous savez ce que c'est les TTS? Les très, très spirituels. Ouais. Attention à ça. Ça serait malhonnête de dire que d'avoir ces choses, ça ne fait pas partie du bonheur quand même. C'est une grande bénédiction. Mais le bonheur, ce n'est pas que cela. Il y a d'autres valeurs que l'argent, le travail, l'amour, le matérialisme, la réussite dans les affaires. Et dans le psaume 4, si vous êtes toujours au psaume 4, vous y êtes? Bon, c'est bien. Dans le psaume 4, au verset 8, David l'explique. Alors, il ne peut pas parler de carte bancaire ou de compte en banque, mais c'est exactement la même chose. Psaume 4, verset 8, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur compte bancaire. » C'est pareil. Leur froment et leur mou. Comment vouliez-vous qu'ils parlent de compte bancaire? Mais c'est ça. Parce qu'avant, on mettait des réserves. Hein, les réserves de céréales, etc. On faisait des réserves, ce qui n'est pas interdit non plus. Donc, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. David a connu le bonheur matériel, mais il explique dans 4 textes ce qu'est véritablement le bonheur. Parce que servir Dieu, c'est extraordinaire. Jésus l'a dit, si vous le faites, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Mais moi, je suis de plus en plus peiné. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de certains animateurs qui n'ont pas été sérieux. Bon, on le leur a dit gentiment, etc. Mais quand même, quand on fait les choses pour Dieu, on les fait sérieusement. Imaginez-vous que je sois malade. Franchement, est-ce que ça peut arriver qu'au dernier, 5 minutes avant, je dise à un frère prêcher? Est-ce que c'est bien ça, 5 minutes avant? Ouais, il faut être sérieux, hein? Non. Alors, David a expérimenté le bonheur. Vous y êtes? David a expérimenté le bonheur. Premièrement, écoutez bien, parce que ne vous réfugiez pas dans un service pour être heureux. Puisque Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous le pratiquiez. Parce que nous, quand on entend des chrétiens dire, oui, j'en ai marre de servir Dieu, j'en ai marre, ils sont passés à côté de quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Ça peut arriver qu'on soit fatigué et qu'on demande justement de se faire remplacer. Je crois qu'on peut gérer la fatigue. Mais quand on en arrive à tout remettre en question, il y a quelque chose à côté de quoi on est passé. C'est peut-être la faute des pasteurs qui n'ont pas fait le travail nécessaire. Alors écoutez bien, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments pénibles, il y a des moments, je le répète, où on est dans la galère, où on souffre. Mais je crois que tout cela peut être compensé par un comportement spirituel qui permettra à Dieu de nous donner le bonheur. David a tout eu. Et pourtant, lorsqu'il parle du bonheur, il en parle sous quatre façons différentes. La première, sous la forme que la foi, le bonheur procuré par la foi. Vous avez vu le nombre de textes, je vous en cite un, psaume 40, verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ». Et vous avez remarqué le nombre de textes dans la Bible où il est dit « Heureux l'homme qui se confie en Dieu ». Le bonheur que procure une véritable foi. David a vécu des moments difficiles. Quand il écrit le psaume 34, il fait allusion à une situation où il a dû fuir. Vous savez que ça s'est très mal passé avec son patron, avec le roi Saül. Ça s'est très mal passé. Et il a dû fuir. Et quand il a fui, il s'est retrouvé chez les Philistins. Et il s'est rendu compte que se réfugier chez les Philistins, ce n'était pas le meilleur des refuges. Et c'est là qu'il exprime ce qu'est vraiment le véritable refuge. Il va dire, non, je me réfugie en Dieu. Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Parce que vous êtes là, nous sommes là, je suis là, mais est-ce que vraiment nous avons la foi en Dieu? On peut servir, voyez, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Ah mais moi je sers dans tel service, pourtant je ne suis pas heureux. Mais oui, si vous dites je sers Dieu, je le mets en pratique, mais vous vivez ces choses-là sans la foi, vous ne pouvez pas être heureux. Parce que le bonheur, il est procuré par une véritable foi. Et vous remarquerez dans les psaumes, et continuellement, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, heureux l'homme qui se confie en Dieu. Oui, le véritable bonheur, il est en relation avec une véritable foi. C'est très bien d'aller à l'église, c'est très bien d'aller au temple, mais laissez-moi vous dire que c'est encore mieux d'aller à l'église avec une véritable foi vivante. Et de dire, Seigneur, moi je veux avoir cette foi vivante, je veux te faire confiance. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Vous lui faites confiance quand? Est-ce que vous lui faites confiance le dimanche matin? Plus le lundi, plus le dimanche, c'est quand que vous faites plus confiance à Dieu? Vous savez, dernièrement j'ai repris une soeur, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais ça exprime bien ce que je veux vous enseigner. Le dimanche matin, elle avait fait une prière, elle avait fait monter une prière, mais extraordinaire. Et le lundi, elle m'appelle, mais dans une défaite pas possible. Et après, elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai dit, ce que vous avez dit hier matin, ce que vous dites le dimanche matin à Dieu, il faut le vivre le lundi. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui. Parce que ce que vous avez dit dans votre prière hier, c'est extraordinaire. Et il faut le vivre. La foi, c'est le vivre. Et mes frères et sœurs, le bonheur, il est avec une véritable foi. Voyons, on vient de parler de la fête de Noël, mais je ne sais pas quelle activité vous avez dans l'église. Vivez-la par la foi, mes frères et sœurs. D'ailleurs, tout ce qu'on doit faire, il faut le vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais, deuxième point, que serait la foi sans la grâce de Dieu? Vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'elle serait la foi sans la grâce de Dieu? Et David, dans le psaume 23, que les chrétiens connaissaient presque par cœur, va dire au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » David était heureux parce qu'il plaçait sa confiance en Dieu, mais il savait aussi que la grâce de Dieu l'accompagnerait tous les jours de sa vie. Est-ce que vous pouvez en dire autant? En plus, il en parle au futur. Il ne dit pas « la grâce de Dieu m'a accompagné ». Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont dans le passé. « Ah, il y a 30 ans, j'ai fait telle expérience, j'ai été guéri ». Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour toutes les expériences. Mais c'est quand même dommage de parler de la grâce de Dieu au passé. Qu'au passé. Il vaut mieux en parler comme David, au futur. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». J'espère que vous sortirez de ce lieu de culte en retenant au moins ce verset 6 du psaume 23. Je vais en faire une affaire sérieuse en me tenant devant Dieu. Je vais dépendre de la grâce de Dieu. En plus, cette phrase est précédée de ce mot « oui ». Il aurait pu dire « le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Vous êtes d'accord? Et il ajoute le mot « oui ». Oui, parce que c'est une certitude, c'est pas non. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, si on avait affaire qu'à notre misère, on aurait dit non, c'est pas possible, le bonheur ne peut pas m'accompagner. C'est pas vrai? Non. Mais il dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. David ne dépendait pas de sa fortune, de ses exploits. David dépendait de la grâce de Dieu. Parce que, avec le passé qu'on se traîne, avec les péchés qu'on a commis, avec les gaffes que l'on a faites, vous en avez commis des péchés? Vous vous rendez compte? Mais il n'y aurait pas le mot oui. Il y aurait non, tu ne peux pas avoir droit à la grâce de Dieu parce que tu as péché, parce que tu es indigne, parce que tu as encore péché, parce que tu ne le mérites pas. C'est vrai ou c'est pas vrai, mes frères et sœurs? Ça serait non, 10 fois non, non, 1000 fois non. Mais avec la grâce, c'est oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Parlez-en au futur, s'il vous plaît. Faites attention. Certains chrétiens, quand je vous écoute parler, vous ne parlez de la grâce qu'au passé. Faites attention. Que la grâce de Dieu soit présente et que la grâce de Dieu soit convenue comme étant au futur, s'il vous plaît. Il a expérimenté la grâce de Dieu. Vous avez vu le nombre d'histoires dans la Bible qui nous parlent du roi David? Vous connaissez la vie de David? Est-ce que vous pourriez écrire un petit bouquin sur David? Oui? Oui? Quel a été son premier exploit? Goliath? Et le lion qu'il a tué avant dans les champs? Non, mais c'est vrai qu'il est connu, je savais que vous allez répondre Goliath. Mais est-ce que quand même tuer un lion, c'est bien? Enfin, pour le lion, non, mais c'est quand même bien. Vous êtes d'accord? Tuer un ours pour défendre son troupeau, c'est quand même une bénédiction. Alors, c'est extraordinaire. Un adolescent qui tue un géant. Là aussi, c'était bien pour tout le monde, sauf pour quelqu'un. Comment il a pu faire ça? Il l'a fait par la foi ou par la grâce de Dieu? Les deux. Il avait confiance en Dieu, mais il avait confiance dans la grâce de Dieu. Qui lui a donné le courage d'aller se battre contre un gars armé de 3 mètres de haut? Qui? C'est Dieu. Bien sûr qu'il avait confiance, mais il avait confiance dans la grâce de Dieu. Qui c'est qui lui a donné de viser juste, tellement il était embardé de ferraille, le gars? Je tapais juste au front. Franchement, parce que quand même, il fallait bien viser. En courant, en plus, il y a été en courant. Qui lui a donné de viser juste? C'est Dieu. Qui lui a donné de rester humble après? Parce qu'après, il est resté humble. Il est retourné garder ses moutons. Pourtant, il avait déjà reçu il va recevoir la nouvelle carte de visite, futur roi d'Israël. Non. Il reste humble. Qu'est-ce que c'est qui a permis cela dans la vie de David? C'est la grâce. Mais David, il n'a pas commis que des exploits, David. Parce qu'on parle de David, des fois, les exploits de David, et c'est vrai, David, l'homme selon le cœur de Dieu, et bien, il a commis l'adultère, il a fait tuer un homme, et il a fait commettre plusieurs... Il a fait des choses terribles, David. Moi, je vais vous dire franchement, je ne sais pas si je le dis bien, mais ça rassure en même temps. Oui ou non? David méritait la mort. Dans l'Ancien Testament, un homme qui commettait l'adultère, qu'est-ce qu'il devait être? Lapidé. Il devait être lapidé. Il méritait le jugement de Dieu. Alors pourquoi lui n'a pas été jugé, alors que Saül, il a été jugé? Tiens donc, Dieu fait-il du favoritisme? Dieu a-t-il des chouchous dans son royaume? Non mais vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il a été jugé, David? Enfin, il a payé cher quand même. Mais il n'a pas été tué. Il aurait dû l'être. Tout roi qu'il était, il méritait la lapidation. Pourquoi? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Parce que pour pouvoir parler de la grâce de Dieu au futur, il faut comprendre ce que je vais vous dire. Parce qu'il est hors de question que vous entendiez juste 4 points sur le bonheur et dire « j'ai compris ». Mes frères et sœurs, il faut que chacun d'entre nous, nous nous comportions de telle sorte que lorsque nous commettons des bonnes choses pour Dieu, tant mieux, c'est par sa grâce, mais lorsque nous commettons des péchés, il faut que nous continuions à croire dans la grâce de Dieu. Parce que c'est facile de dire, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, oui, pour le Seigneur, j'ai amené des âmes à Dieu. Oui, mais béni soit Dieu, c'est une grâce. Mais quand on a péché, il faut savoir accepter d'être confronté à son péché. Oui ou non? Il ne faut pas le fuir comme Saül qui a dit, oui, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du peuple. Voilà. Le problème de Saül, c'est qu'il n'a pas connu la grâce de Dieu et je peux vous dire qu'il n'a pas pu lui parler de la grâce de Dieu au futur. Alors que David, qui a fait un péché beaucoup plus grave que Saül, il a connu la grâce de Dieu parce que quand il a été confronté à son péché, il s'est humilié. Et si vous lisez le psaume 51, vous connaissez ce psaume de repentance, il dit « Si tu me juges, tu seras juste dans ta sentence ». Il est honnête devant Dieu. Mais pour nous, c'est pareil. C'est pas écrit dans le texte de l'apôtre Paul sur la Sainte Cène, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez que la grâce vous accompagne jusqu'à la fin? Il y a des chrétiens qui devraient être là ce matin. Ils n'y sont pas. Je ne parle pas de ceux qui sont en vacances. Il y a des chrétiens qui devraient être là. Ils ne sont pas là parce que la grâce de Dieu ne les a plus accompagnés. Il faut dire les choses comme elles sont. La grâce de Dieu ne les a plus accompagnés parce que quand ils ont été confrontés à leur péché, eh bien, ils ne l'ont pas réglé. Et il faut savoir être honnête et dire oui, eh bien, j'ai péché. Voilà, je le reconnais. Il faut savoir être humble et dire, Seigneur, oui, je le reconnais. Ne vous embarquez pas dans un service avec le texte de 13 Jean 17 en disant voilà maintenant je sais comment être heureux, je vais trouver un service dans l'église, je sais. Non, oui, vous devrez l'être. Mais dans cet état d'esprit où vous vivez par la foi et dans ce deuxième état d'esprit où vous dépendez de la grâce de Dieu. Il aurait pu trouver des excuses. Est-ce qu'il aurait pu trouver des circonstances atténuantes, David? Non, mais vous avez jamais vu à la télévision certains procès de certains criminels, comme on leur trouve des circonstances. Mais c'est à faire exploser la télévision. Comment on est capable de défendre certains criminels, de leur trouver des circonstances atténuantes? C'est à rêver. Le monde, c'est une chose, mais dans le royaume de Dieu, il y a des chrétiens qui cherchent toujours des circonstances atténuantes. C'est pas ma faute. C'est la faute à la femme. Elle n'avait pas qu'à se baigner toute nue dans la piscine. Oui ou non? C'était pas la faute à David. Franchement, c'était la femme quand même, non? La coupable. Vous êtes d'accord avec moi? C'était qui la responsable? C'est elle. Moi, je vous dis que c'est elle. Et vous me faire confiance. Hein? Si vous voulez que je reste pasteur ici, faites-moi confiance. Est-ce que c'était la faute de la femme? Non. Lui qui a écrit dans certains psaumes, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, il aurait peut-être dû y penser. Quand on voit cet homme... Comment il a été sensible quand un de ses officiers lui a dit « Tiens, aujourd'hui, le Seigneur te livre Saül. » Vous vous rappelez quand il dormait dans la caverne? Et quand il s'est approché de Saül, il a juste touché avec le couteau le pan de son manteau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que son cœur s'est mis à battre. Et il n'a pas pu le faire. Et il a bien fait. C'est dommage que ce jour-là, son cœur ne lui ait pas dicté ce qu'il avait à faire. Comme quoi, voyez, on peut perdre sa sensibilité avec Dieu. Faisons attention à ça. Si quand vous regardez quelque chose de mauvais à la télé, si vous voyez quelque chose de mauvais et que ça ne vous fait plus rien, vous êtes sérieusement en danger. Repensez-y. Il n'a pas accusé la femme, il n'a pas excusé la fatigue. Il a dit « Oui, moi, j'ai pas été comme moi, j'étais fatigué. » Parce qu'il y a des gens, voilà, il nous le dit, mais les gens, ils ne sont pas gênés. « Ah, mais vous comprenez, moi, je suis fatigué en ce moment, vous comprenez, j'ai besoin de me détendre. » Ah ben, tu as fait ça pour te détendre parce que tu es fatigué. Est-ce que vous croyez que la grâce de Dieu va accompagner cette personne? Eh bien, moi, je ne le crois pas. Il aurait pu accuser le diable, parce qu'il y en a qui accusent le diable continuellement. C'est la faute au diable. C'est le diable qui m'a mis cette situation là-devant. Il n'y en a pas qui accusent le diable tout le temps. C'est la faute au diable. C'est le diable. D'ailleurs, ça devient un témoignage lamentable. De mettre tout le temps le diable dans toutes les sauces et de dire c'est la faute au diable si on en est arrivé là. En tous les cas, s'il avait accusé les autres, le diable, la femme, ce qui vous voulez, il n'aurait pas eu part à la grâce de Dieu. Le salut, on l'a eu par grâce. Vous êtes d'accord? Le salut, on l'a eu par grâce. Mais la vie et la marche avec Dieu, c'est toujours par grâce. Vous entendez? On est rentré dans le royaume de Dieu par la grâce. Eh bien, on reste dans le royaume, on marche dans le royaume de Dieu toujours par la grâce de Dieu. Le bonheur, par une véritable foi. Le bonheur, par la grâce. Le bonheur, comment? Comment? Par la crainte de Dieu. Vers psaume 25. Dans le psaume 25, David, c'est David qui parle du bonheur. Hein. Il avait posé la question et bien il a découvert. Comme quoi ça vaut la peine de poser des questions à Dieu parfois. Hein. Psaume 25, verset 12. Psaume 25, verset 12e. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Alléluia. Le bonheur par la direction divine. Dieu qui nous montre la voie que l'on doit choisir. Est-ce que c'est important ? Hein ? Il faut laisser le Seigneur nous indiquer les choix que nous devons faire. Dieu ne choisit pas pour nous, attention. Ce texte nous dit que Dieu nous montre la voie qu'on doit choisir. Dieu ne fait pas de nous des gens irresponsables. J'attends que Dieu me montre. J'attends que Dieu me montre. Est-ce que vous croyez que ça marche comme ça? Je crois que c'est beaucoup plus sérieux que il faut être responsable dans la vie. Et la crainte de l'Éternel est une grande bénédiction. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il choisit sa propre volonté. Cette prédication l'intéresse parce qu'elle fait allusion au bonheur. Il y a certainement une écoute attentive. Tiens, quand même, le bonheur, moi, ça m'intéresse bien. Mais après, la volonté de Dieu, c'est pas mon affaire qui prime. Dieu de son côté, c'est bien. Dieu du mien, ça va bien. Si vous faites partie de ces gens-là, vous ne serez jamais heureux, même si vous avez accepté Jésus comme sauveur. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu nous montrera la voie. Et lorsque nous ferons ce que le Seigneur nous a montré, nous serons heureux. Et David, combien de fois a consulté Dieu pour savoir ce qu'il devait faire? Et quand vous ne savez pas quoi faire, consultez le Seigneur. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Montre-moi cette situation. Et vous allez voir, si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous perdrez la paix. C'est pas vrai? Si vous l'avez. Parce qu'ils n'ont plus la paix. Alors c'est sûr qu'ils ne vont pas la perdre, ils n'ont pas. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Il y a des chrétiens qui sont énormément dans l'embarras, parce que, comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose? Ils ont perdu la paix. Alors si on leur dit, mais tu perdras la paix si Dieu n'est pas d'accord, ils l'ont déjà perdu. C'est une affaire grave ça, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais vous avouerez que c'est difficile, parce que quand tout va bien avec Dieu, dès qu'on fait quelque chose qui ne va pas, dès qu'on fait un choix qui ne va pas, de suite, écoutez, est-ce que je me trompe? De suite, on perd la paix. Ça prend un quart de seconde, ça s'appelle la conscience. Et il y a des gens qui ont perdu la conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais si vous avez perdu la paix, c'est clair qu'il vous faut la retrouver. D'ailleurs, on l'a lu dans le Pierre et dans les textes d'introduction et dans le psaume 34. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il poursuive la paix. Parce que la paix, on peut la perdre, parce qu'il y a des choses qui nous la font perdre. Je l'ai déjà perdue. On l'a tous perdue. Qui n'a jamais perdu la paix? Parce qu'on a mal parlé, on a mal répondu, on a eu une mauvaise pensée, on s'est fait piéger, on l'a déjà perdu. Et s'il y a bien quelque chose qu'il faut poursuivre, c'est bien ça, croyez-moi. David a consulté Dieu et il a toujours été dirigé. Il a connu le bonheur par la direction divine, par la crainte de l'Éternel. Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Mes frères et sœurs, si on est honnête, et si on lit la Bible, pas comme certains le font le matin, ils ouvrent la Bible. Moi, je lis que les psaumes, c'est sûr. Quand ils ouvrent la Bible, ça tombe sur les psaumes. Est-ce que c'est sérieux de lire la Bible comme ça? Sérieux? Est-ce que vous faites comme ça? Allez, qui c'est qui fait comme ça? Allez, allez, levez la main, ceux qui font comme ça. Il y en a qui le font. On ne devrait même pas en rire parce que c'est grave. Ça fait 10 ans qu'ils sont convertis, 10 ans qu'ils ouvrent la Bible comme ça. Ils ont lu que le livre des psaumes. Moi, je trouve que c'est triste. Après, on demande à Dieu, montre-moi la voie que je dois suivre. C'est quoi que c'est? C'est dans le psaume 25. Mais enfin, c'est pas sérieux. Voyez, pourquoi l'apostasie est rentrée dans les églises? Pour la simple unique raison que les gens, ils ont été légers avec le Seigneur. La Bible, c'est un livre de conseils. Et Dieu vous montrera la voie que vous devez choisir. Ou la voie que vous devez suivre. Et quatrièmement, dans le psaume 65, il y a le quatrième aspect du bonheur, que David a également connu, puisque c'est lui qui l'écrit. Dans le psaume 65, il explique quelque chose qui, je l'espère, est une expérience que vous vivez régulièrement. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Alléluia. Je ne veux pas le citer, mais ça ne fait rien. N'écoutez pas, monsieur de Dieu, Olivier. Hein. Ce matin, quand monsieur de Dieu est arrivé, ça fait 60 ans que vous êtes converti. Ça va faire 60 ans.
Ça fait 60 ans. Au mois de mai,
ça fait 60 ans et un mois et quelques jours.
60 ans, le 14 juillet, que je suis
baptisé.
Que je me suis engagé par les Olivier.
Bon. Ce matin, quand il est arrivé, il me dit, qu'est-ce que je suis heureux de venir dans la maison de Dieu. Je dis, c'est chouette quand même. Oui, non? Quelqu'un qui vient à l'église depuis 60 ans et qui a toujours la même joie de venir dans la maison de Dieu. Bon, je vous jette des fleurs, hein?
Oui, vous.
Franchement, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez cette joie de venir dans la maison de Dieu? Est-ce que c'est, il faut venir, parce que si je ne viens pas, est-ce que je ne me mets pas Dieu contre? Si je ne prends pas la Sainte Seine, est-ce que je ne perdrai pas la communion? Vous voyez, si vous en êtes là, ça va mal. Mais sérieusement, David a tout eu. Tout il a eu, David. Il a tout eu. Mais le bonheur, il l'avait parce qu'il avait compris que dans la présence de Dieu, il y a énormément de joie à venir dans la maison du Seigneur pour servir Dieu ensemble. Vous voyez, la fête de Noël, il faut que ça soit une joie pour tous ces enfants qui viendront. C'est une occasion extraordinaire. On doit servir avec joie. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des jours mauvais. Oui, il y a des échardes. Oui, il y a la croix portée. Mais il y a une véritable joie. La joie que procure la foi vivante. La joie que procure la grâce de Dieu. La joie que procure la véritable crainte de l'Éternel. De savoir, oh Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Je vous parlais tout à l'heure de l'évangélisation. Mais je pense qu'on devrait en faire une affaire sérieuse quand même. L'évangélisation de la ville quand même. Tant que la porte est ouverte. Vous ne croyez pas que c'est bien? Tant que la porte est... Seigneur, mais montre-moi, oui, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Mais Seigneur, je veux cette foi vivante, je veux parler de la grâce au futur. J'en ai marre de parler de la grâce d'il y a 30 ans. Oh, j'ai été guéri, j'ai été délivré de la drogue, j'ai été délivré de l'alcool. Oh, j'ai fait une expérience formidable. Et depuis, rien. Mes frères et sœurs, le bonheur, ce n'est pas la grâce d'il y a 10 ans, d'il y a 3 mois. La grâce, elle m'accompagnera. Je le sais. Est-ce que vous pouvez le dire, ça? La grâce, elle va m'accompagner jusqu'à la fin. La grâce, elle est éternelle d'ailleurs. Alors je veux en faire une affaire sérieuse. Je vivrai par grâce. Je connaîtrai des bénédictions, tant mieux. Je ferai quelques exploits, entre guillemets. Merci Seigneur. Je recommettrai un péché. Eh bien par grâce, tu me relèveras Seigneur. Et je serai sérieux lorsque tu me confronteras à mon péché, lorsque je prendrai la Sainte Seine. Je serai sérieux parce que tu vas me rappeler, Seigneur, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. Oui, il n'y a rien de plus beau. Je pensais hier soir, parce que je préparais cette méditation, vraiment à parler de la grâce au futur. Je crois qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de pouvoir dire, oui, cette grâce, elle m'accompagnera. David a été heureux, pas parce qu'il a été roi, pas parce qu'il a été riche, pas parce qu'il avait un palais, pas parce qu'il avait des serviteurs, pas parce qu'il a remporté des batailles. Il a été heureux parce qu'il avait une foi véritable, il vivait dans la grâce de Dieu, quand tout allait bien et quand tout allait mal. Il s'est laissé guider. Laissez-vous guider. Peut-être que c'est un temps de nouvelle direction pour vous. Un jeune homme me téléphonait la semaine dernière, il me dit, voilà monsieur Gauche, je ne sais pas s'il ne me faut pas venir à Toulouse, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin de savoir. Et bien, j'ai dit, mais priez avec votre femme et laissez-vous guider par Dieu. C'est important d'être dans la ville où Dieu veut qu'on soit. Oui ou non? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous êtes dans l'église où Dieu veut que vous soyez? Est-ce que c'est important ça? Eh oui, c'est important. Et toutes ces choses-là sont sérieuses. Et il a connu le bonheur de vivre dans la présence de Dieu. Alors mes frères et sœurs, oui, Jésus ne s'est pas trompé. Il l'a dit, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous les savez. Je vous les ai décryptées un peu. Je vous les ai définies un petit peu. Je voudrais, mes frères et sœurs, que ces choses-là, on y réfléchisse. Ce soir, avant de vous endormir, faites le point sur ces 4 points. Et dites, Seigneur, mais c'est vrai ma foi où j'en suis? Est-ce que je te fais confiance? Entièrement. Alors, on répond, on a un quart d'heure d'avance. Est-ce que vous faites entièrement confiance en Dieu? Est-ce que vous parlerez de la grâce au passé ou au futur? Au présent et au futur. Vous voulez bien? Est-ce que vous voulez vous laisser guider par Dieu? Ne partez pas, ne fuyez pas. ne fuyez jamais. Et est-ce que vous voulez réapprendre la joie de servir Dieu dans sa présence? Et le bonheur vous accompagnera. On ferme les yeux et on va terminer en chantant un cantique. Ton nom. Notre Père, notre Dieu, nous croyons que parce que nous sommes tes enfants, tu nous bénis. Mais parce que tous nous sommes tes enfants, tu nous éprouves aussi. Nous acceptons bien sûr ces deux affaires pour devenir ces hommes et ces femmes que tu veux. Merci pour les épreuves et merci pour les bénédictions. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'un homme, même dans ces temps compliqués, peut être heureux parce qu'il vit par la foi, par la grâce, par la direction divine et par la joie de ta présence. Nous le croyons, Seigneur. Et nous te demandons de faire en sorte que ces temps de congé, ces mois d'été, soient des temps où nous allons réfléchir à ces choses, afin que tous nous rendions ce témoignage qui glorifiera ton nom dans toutes nos victoires et dans toutes nos défaites. Que nous puissions continuer, Seigneur, à donner ce témoignage qui te glorifiera, oui, quelles que soient les épreuves, les échecs et les exploits. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir laissé ta parole pour comprendre ces choses et nous voulons vraiment te bénir. Merci, Seigneur Jésus. Amen.